Donc le mouvement pacifiste allemand, il insiste beaucoup sur la décentralisation, sur le fait qu'il se passe des choses dans beaucoup d'endroits différents et tout ça.
Oui, parce qu'il veut, par ces biais-là, d'une part, que les groupes soient autonomes à l'heure de programmer les actions, parce que les groupes pourront faire ce qu'ils veulent faire d'une part et ce qu'ils peuvent faire à la mesure de leurs forces d'une autre. Et aussi parce que ça atteindra d'une façon beaucoup plus profonde tous les pays. Si on pense que, pour ainsi dire, dans chaque village, il y a un groupe pacifiste plus ou moins grand, on ne peut pas dire que le mouvement pacifiste soit un échec.
Et de toute façon, les grandes manifestations du week-end, en fait, elles ont fait revenir les journalistes les plus teigneux sur leurs affirmations. Ils ont dit oui, quand même, il y a eu, je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes, et il y a une chaîne de 108 km de long, une chaîne humaine, etc. Puis je crois que ça, au niveau de l'opinion internationale, disons, comme elle est transmise par la grande presse, ça a eu un effet, effectivement, sur toute cette presse, quoi.
Oui, le mouvement pour la paix a montré bien qu'il est vivant, qu'au bout des 3 ans d'existence, il compte avec un écho très très large et qu'il n'est pas du tout ni mort, ni prêt à craquer, ni quoi que ce soit.
Legende vom toten Soldaten. Und als der Krieg im vierten Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Heldentod. Der Krieg war aber noch nicht gar, drum tat es dem Kaiser leid, dass sein Soldat gestorben war, es schien ihm noch vor der Zeit. Der Sommer zog über die Gräber her und der Soldat schlief schon. Da kam eines Nachts eine militärische ärztliche Kommission. Es zog die ärztliche Kommission zum Gottesacker hinaus und grub mit geweihtem Spaten den gefallenen Soldaten aus. Der Doktor besah den Soldaten genau, oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat war KV, und er drücke sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit, die Nacht war blau und schön. Man konnte, wenn man keinen Helm auf hatte, die Sterne der Heimat sehen. Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps in den verwesten Leib und hängten zwei Schwestern in seinen Arm und ein halb entblößtes Weib. Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt, drum hinkt ein Pfaffe voran, der über ihm ein Weihrauch fast schwingt, dass er nicht stinken kann. Voran die Musik mit Chindrara spielt einen flotten Marsch. Und der Soldat, so wie er's gelernt, schmeißt seine Beine vom Arsch. Und brüderlich den Arm um ihn zwei Sanitäter gehen. Sonst flöge er noch in den Dreck ihnen hin und das darf nicht geschehen. Sie malten auf sein Leichenhemd die Farben schwarz-weiß-rot und trugen's vor ihm her, man sah vor Farben nicht mehr den Kot. Ein Herr im Frack schritt auch voran mit einer gestärkten Brust. Der war sich als ein deutscher Mann seiner Pflicht genau bewusst. So zogen sie mit Chindrara hinab die dunkle Chaussee. Und der Soldat zog taumelnd mit, wie im Sturm die Flocke Schnee. Die Katzen und die Hunde schrien, die Ratzen im Feld pfeifen wüst. Sie wollen nicht französisch sein, weil das eine Schande ist. Wenn sie durch die Dörfer ziehen, waren alle Weiber da. Die Bäume verneigten sich, Vollmond schien und alles schrie Hurra! Mit Chindrara und Wiedersehen und Weib und Hund und Pfaff. Und mittendrin der tote Soldat wie ein besoffener Aff. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, kommt's, dass ihn keiner sah. So viele waren herum um ihn mit Chindrara und Hurra! So viele tanzten und johlten um ihn, dass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen, und da sind nur Sterne da. Die Sterne sind nicht immer da, es kommt ein Morgenrot. Und der Soldat, so wie er's gelernt, zieht in den Heldentod.
Et que penses-tu du mépris que montre, par exemple, le journal Libération pour le mouvement pacifiste allemand, qui le traite de mouvement à composante nationaliste, et enfin qui est très 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 distant, qui formule beaucoup beaucoup de critiques par rapport à ce mouvement?
Libération est un journal très curieux. Et moi, je me rappelle d'avoir lu les articles qu'ils avaient écrits lors de la mobilisation. Cet été, au Larzac, il y avait une réunion préparée par un groupe qui s'appelle les Codénés, auquel s'étaient associés aussi les Amis de l'Arche et puis d'autres associations pacifistes et les PSU, PSU. Et puis, les journalistes de Libération ne racontaient pas beaucoup, ne parlaient pas beaucoup de ce qu'ils s'étaient dit ou du programme du mouvement pacifiste français. Donc, ils faisaient une très mauvaise information parce que quand on lit un papier, on aime bien savoir qu'est-ce qu'il veut un mouvement et qu'est-ce qu'il ne veut pas, etc. Et en même temps, il parlait avec une très grande nostalgie de ces mouvements qui s'agitent partout en Europe, sauf en France. Ensuite, il reste à discuter et les accusations de nationalisme qui font surtout la presse française sur le mouvement pour la paix en Allemagne. Bon, et il y a la question toujours jalousie et France-Allemagne, la vieille rivalité, les deux guerres, etc., etc. Mais ensuite, il y a aussi, nous avons parlé de cela avec Andrea Sumac, qui est le coordinateur à Bonn pour les grandes manifs de l'automne, donc la semaine, plus les manifestations, plus les manifestations qu'il y aura encore au mois de novembre, parce qu'il y aura encore une semaine qui se fait pour le mois de novembre, plus l'initiative, maintenant en Allemagne, on demande un référendum populaire sur la question des missiles. Et on a parlé de cette question parce que justement la presse française, elle véhicule ces idées-là. Alors, nous, il nous a dit simplement, écoutez, nous, on ne veut pas des missiles, que ça soit américain, japonais, allemand ou français ou quoi que ce soit, nous, on n'en veut pas. Simplement, on n'en veut pas. On veut que l'Allemagne et l'Europe, ce soit une zone dénucléarisée. Dans ce sens-là, on peut encore ponctualiser. Il ne faut pas assimiler le mouvement de la paix en Allemagne à des gens de types comme Joseph Strauss, qui était ministre d'Affaires étrangères et lors du gouvernement avec Adenauer, et qui est un très vieux politicien et tout. Et par exemple, des types comme ça, qui sont CDU, et démocrates chrétiens. Et ces personnes-là, ou certaines personnes en Allemagne, aimeraient qu'il y a, par rapport aux armes nucléaires, un two-case système, c'est-à-dire un double contrôle des armes nucléaires stationnées sur sol allemand. Et le mouvement pour la paix ne veut pas du tout ça, simplement il ne veut pas des missiles. Et nous, on nous a dit aussi que, par exemple, les problèmes de réunification, s'ils se posent, se poseront en dernier lieu. Et que pour les gens, les jeunes les personnes qui habitent en Allemagne, qui ont des 20 à 30 ans, tout le monde préfère aller en voyage aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique, n'importe où. Mais personne ne va en DDR, c'est-à-dire en République démocratique allemande. Et qu'il n'y a pas du tout un engouement à ce propos-là sur la réunification. Il n'y a rien à faire.
Tu veux dire que les jeunes, ils s'en fichent, ce n'est pas leur problème, ou bien ?
C'est-à-dire que les problèmes, c'est nous, on ne veut pas des missiles. Nous, on ne veut pas ni ces missiles qui viennent, ni les missiles qui sont stationnés. Nous, on ne veut pas d'armes atomiques allemandes si la question venait à se poser un jour ou l'autre. On n'en veut pas. Et il ne faut pas, comment dire, revenir là-dessus, quoi. C'est-à-dire, pour eux, c'est une question qui est très, très claire. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont opposés, pas seulement aux missiles, mais le mouvement pour la paix, je pense qu'il recueille pas mal de gens qui se sont opposés à Brockdorf, à Kalkar, à plein de centrales nucléaires. Alors, je ne sais pas pourquoi on insiste là-dessus. Je pense que la presse française reflète ses propres fantasmes et ses propres peurs, mais qu'elle ne regarde pas la réalité en face.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tout cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Alors, est-ce que cette ambiguïté, ce mépris de la presse française, donc y compris la presse de gauche, ne vient pas du fait que le gouvernement socialiste, enfin M. Mitterrand, a pris des positions en faveur des missiles et que cette presse veut surtout continuer d'appuyer le gouvernement Mitterrand?
Ouais, mais il s'agit aussi d'une chose, c'est que lorsque la décision de 1979 a été prise, c'est-à-dire la décision de l'OTAN d'installer des missiles, des nouveaux missiles sur sol européen, en Allemagne avait aussi un gouvernement de gauche, c'est-à-dire les SPD, les partis socialistes allemands. Et c'est avec Schmidt, car le chancelier Schmidt, que la décision a été prise. Quoi. Donc moi, je ne pense pas que l'appui missile au au nom, au missile dépend des baromètres classiques de la politique des... pas de nos jours, parce qu'il est complètement dépassé, mais sur laquelle beaucoup de gens s'érigent encore, c'est-à-dire droite et gauche. Et je ne le pense pas, parce que, par exemple, Mitterrand, je crois qu'il n'y a pas, dans tous les continents européens, un seul président, un seul dignitaire, comment dire, si haut, qui est autant favorable aux missiles. Je crois que c'est le président le plus pro-missile qu'il peut avoir, vraiment, en Europe, maintenant, c'est Mitterrand. Il n'y a pas d'autre. Même Thatcher, en la connaissant et tout. Bon, parce que aussi les missiles vont être installés sur son territoire. Mais elle se montre beaucoup plus circonspecte quand elle parle de cette question-là. Tandis que Mitterrand se promène partout en disant « Oui, les missiles, il faut. Absolument, il faut. » Alors... on peut se poser beaucoup de questions par rapport à la politique extérieure française de ce moment-ci. Par exemple, lors de la guerre égypto-israélienne de 1973, l'Europe avait observé une attitude de neutralité. Et bon. Sauf pour les ventes d'armes, bien entendu, tout le monde avait profité un maximum pour vendre toutes les armes qu'il pouvait. Mais à part ça, aucun des gouvernements s'était engagé ni à prêter son territoire pour des échelles, des avions américains via les États-Unis, l'Europe, les Proches-Orients, sauf le Portugal qui avait prêté les Açores. Et on se trouve aujourd'hui avec un nouveau conflit dans le Proche-Orient. C'est plus les Égypto-Israéliens, mais maintenant c'est les Libano-Israélo-Syriens. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la France engagée de plein pied en une guerre avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question par rapport à une politique française pareille, en tout et surtout qu'il vient d'un parti socialiste, d'un gouvernement qui se dit socialiste? Qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, je te parle, en tout cas.
Ça veut dire simplement que la France, elle a des intérêts dans ces situations, elle a quelques petits avantages dont elle veut profiter un maximum, et que la France, elle n'en douterait pas en seconde de devenir les gendarmes de l'Europe, et si par hasard les choses tourneraient vinaigre en Allemagne, d'intervenir au premier degré avec les États-Unis. Parce que par exemple, à ce moment-là, on pourrait se poser des questions si l'Angleterre interviendrait directement ou pas. Mais je pense que la France, elle serait disposée à intervenir, parce qu'elle ne veut pas. Pas du tout. Elle pense qu'elle a une suprématie au niveau européen, et chose qui est vraiment ridicule, quoi. C'est-à-dire parce que la France, elle est au niveau économique, elle est dans un état pitoyable. Mais je ne sais pas d'où elle vient cette sorte d'assurance qui les permet de faire une politique extérieure pareille, quoi. C'est assez incompréhensible.
Il avait tout pour être heureux, un cœur en fête et les yeux bleus, joyeux fétiche. Il était jeune, il était beau, avec de faux airs de barbeau, un peu godiche. Les filles le trouvaient gentil, il leur plaisait, il était riche. Tout allait bien quand un jour il laissait un fiche. Engagez-vous, rengagez-vous dedans les troupes coloniales. Vous apprendrez un bon métier. Les garçons violent les filles sans façon, ou le contraire. Il attrapa super.
Krönmonneur, médaille et goutte militaire, consacrant ces temps de malheur, jolie carrière, engagez-vous, engagez-vous, dedans les troupes coloniales, vous apprendrez un bon métier. Dans les troupes coloniales.
Mais par rapport au Parti Socialiste en général, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer la position actuelle du SPD et de Willy Brandt, qui a participé à ce mouvement de la paix, puisqu'il a d'ailleurs prononcé un des discours. Et je crois qu'à l'intérieur du mouvement de la paix, il y a pas mal aussi de contradictions avec Willy Brandt.
À l'intérieur du mouvement pour la paix, je ne pense pas qu'il y a des contradictions avec Willy Brandt personnellement, en premier lieu, ni avec l'SPD en deuxième lieu. Et jusqu'à maintenant, c'était l'effroi total. Le mouvement pour la paix est fait ou est composé des multitudes, des myriades de groupes autonomes qui se rangent sans doute dans la gauche, mais aussi dans les églises, dans les groupes féministes, dans les groupes collectifs d'action quiconque, avec beaucoup d'écologistes par exemple, et qui n'a rien à voir avec l'SPD. Mais on ne peut pas prendre les choses comme ça dans un vide absolu et puis dire ah oui ça fonctionne comme ça et tout, et les choses se déroulent dans un espace et dans un temps. Alors je pense que ils peuvent pas s'ignorer, ni le mouvement pour la paix peut ignorer les positions du SPD, parce que l'SPD, malgré le recul des syndicats ces dernières années en Allemagne, parce qu'il y en a eu une série d'échecs, comme par exemple l'échec pour la semaine des 35 heures, et l'échec pour obtenir une meilleure participation dans la vie des entreprises, etc., qui a fait diminuer le nombre d'affiliés au syndicat d'une façon vraiment radical, ils perdent des membres, mais ça se compte plus. Ils peuvent pas s'ignorer, quoi. Ils vivent dans le même pays et ils sont par les destins ou par je sais pas quoi associés au futur ou dans le futur. Alors le mouvement pour la paix n'a pas demandé la collaboration du SPD d'une part. Je pense qu'ils se sont décidés à inviter Willy Brandt, et bon, pourquoi pas. Mais il faut distinguer plusieurs choses. Dans l'SPD, il y a beaucoup de courants, quand même, ce n'est pas un parti. Un parti n'est pas quelque chose d'homogène, ou tout va dans un seul sens. Alors, bon, dans l'SPD, il y a plusieurs courants. Par exemple, il y a le courant d'Oscar Lafontaine, qui est un député de Saarbrück, qui aimerait une troisième voie pour l'Europe. Et puis, il y a une politique armamentiste, par exemple, et pro-missile, c'est la position de Schmitt, l'ancien chancelier. Ensuite, il y en a sûrement une bonne partie de la base qui est contre le stationnement des nouvelles fusées. Mais il faut encore distinguer très soigneusement que l'SPD et Willy Brandt en particulier se rangent du côté de la dissuasion au moindre degré, c'est-à-dire au niveau le plus bas, une dissuasion avec le nombre d'armes nucléaires le plus bas possible, mais une dissuasion quand même, tandis que le mouvement pour la paix veut un désarmement unilatéral, c'est-à-dire par volonté propre, par décision propre d'un pays, on ne veut pas d'armes nucléaires sur notre sol. Dans cela, il y en a des différences fondamentales et il y aura beaucoup de discussions dans le futur parce que je viens de dire avant, et les deux groupes se verront obligés de collaborer. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça donnerait, mais je ne pense pas que le mouvement pour la paix, avec la multitude des groupes qui les composent, cède sur ce point-là de désarmement unilatéral. Et l'SPD, il n'est pas dans une très bonne position politique pour demander ou pour réussir et beaucoup de choses. Je pense qu'il n'est pas très très bien quoi, politiquement à ce moment-là, parce qu'il est dans l'opposition, parce qu'il perd beaucoup de gens, etc. Et en plus, parce que maintenant, on l'attache les titres d'opportuniste. Chose qui est relativement vraie, mais bon, il faut toujours tenir compte de que l'SPD se range sur la dissuasion.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corozo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, préparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci. Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde.
Bien, on a parlé du refus de l'installation des missiles. Et il y a actuellement cette conférence à Genève, ces négociations où les Américains ont promis que les missiles ne seraient installés éventuellement qu'à la fin des négociations, mais de fait, il semble que les missiles soient déjà sur place dans de nombreux pays. Qu'est-ce que tu en sais?
Alors, moi, j'ai des renseignements divers, certains très concrets et d'autres pas très concrets. Et à mon avis, les Américains se sont moqués, se sont vraiment payés de la tête des alliés lorsqu'on avait initié... lorsqu'on avait pris cette décision, cette double décision, déploiement d'un côté et négociation d'un autre. Et je ne pense pas qu'on veuille arriver à un accord parce qu'il manque la volonté politique évidente pour s'entendre. D'un côté, la Russie, ils ont beau crier, ils ont des armements nucléaires, ils continuent à fabriquer, réinstaller, et ils n'arrêtent pas, donc personne ne peut les croire dans les déclarations. Et d'un autre côté, M. Paul Nitt, qui est le délégué pour le INF, Intermediate Nuclear Force, à la conférence de Genève, avait déclaré lors de la 29e Assemblée générale de l'OTAN à La Hague, le 6-7 octobre dernier, que lui personnellement n'envisageait pas de traiter avant que les missiles ne soient installés. Et pendant toutes ces années dernières, c'est-à-dire ces 4 dernières années, et les Américains, ils ont bien laissé entendre et laissé comprendre qu'ils souhaitaient négocier d'une position de force, depuis une position de force, la position de force et les missiles installés. Alors, sur ces points concrets-là, on peut dire que et en ce qui concerne les cruises sol-sol qui viennent en Angleterre, les travaux sont pratiquement finis, doivent être finis. Ils étaient déjà pratiquement finis lorsque j'avais visité la base de Green Anchorage en Angleterre, au Berkshire, en bas. Et depuis le mois de juillet, il y avait déjà les techniciens qui étaient, plus une partie du système. On parle en général des missiles, mais bon, il y a beaucoup d'équivoques. Quoi. C'est vraiment de la tromperie totale et absolue. Et les missiles cruise ont des particularités techniques très spéciales. Et puis, il y a une partie des missiles qui était déjà en Angleterre, donc à Greenham Common, depuis le mois de mars. Mars dernier, c'est la partie qu'ils appellent Transporter Erector Launcher, c'est-à-dire les systèmes de transport, d'érection et de lancement. Donc, c'est des gros camions, pour dire d'une façon simple, qui portent les missiles et qui sont capables de les déployer autour de la base. C'est prévu, en cas d'urgence, de les déployer autour des bases sur un périmètre de 160 km². Alors imaginez bon, la boucherie que ça peut amener. Et ces systèmes-là sont déjà, depuis le mois de mars, c'était convenu avec un traité spécial avec le gouvernement anglais. Et c'était convenu dans ce même traité que les missiles, les têtes nucléaires, ils seraient quelques semaines avant le mois de décembre. Quelques semaines avant le mois de décembre, nous y sommes déjà. Étant donné qu'une partie du matériel est déjà là et que les techniciens sont déjà là, il y a toute porte à croire que les têtes, ils sont aussi. D'une autre part, des observateurs très bien renseignés avaient remarqué qu'un drapeau spécial qui dénote chaque site comme une base de missiles avait été déjà déployé à Greenham, à Lakenhead et à Upper Hayford. C'est les trois bases qui vont porter les missiles. Dans le cas de Pershing en Allemagne, les sites, on ne les connaît pas parce que ça risque de provoquer énormément de remous. Donc personnellement, je ne suis pas renseignée. Je sais les sites probables, mais on ne connaît pas exactement à quel endroit iront les premiers. Puis ensuite, dans ce qui concerne l'Italie, il y a des rumeurs divers. Un, c'est les déclarations du président italien, que c'est Craxi, qui avait dit « Ouais, les missiles ne seront pas... à Comiso avant le mois de mai, avant le printemps, mais cela, il fallait s'y attendre parce que s'il y avait un quiconque retard dans les programmes de déploiement, c'était à Comiso parce que les travaux sont très en retard. Mais on avait spécifié dans une clause de traité que pendant que les travaux à Comiso finissaient, les missiles seraient éventuellement déployés ailleurs. Donc on peut s'imaginer qu'ils sont ailleurs, mais on ne sait pas. On peut savoir en établissant des systèmes de renseignements très précis, mais partout, les gens ne sont pas si bien organisés qu'ils peuvent les savoir.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
C'était donc une interview avec une femme qui travaillait au rebrousse-poil et qui avait été en Allemagne. Nous vous rappelons que dans le dernier rebrousse-poil, qui a un long titre avec un grand dossier sur la guerre des étoiles, il y a un article, un interview de Lucas Beckmann, qui est le secrétaire général national du Parti des Verts, qui parle justement des pacifistes allemands et du Parti des Verts. Le prochain rebrousse-poil, qui paraîtra lundi prochain, aura aussi traitera beaucoup du thème du pacifisme avec une série d'interviews.
Avec Andreas Sumac, qui est le coordinateur, enfin qui était le coordinateur pour les groupes de Bonn, où ça c'est très marrant aussi. Ils ont un bureau avec 14 personnes qui travaillent à plein temps. Et puis lui, il dirige tout cela. Et puis de là, il coordonne un peu. Il est coordinateur pour Bonn. Et il fait partie de la coordination nationale pour le mouvement pacifiste. C'est une personne très, très chouette et très intéressante. Et puis très bien renseignée sur plein de choses. Et c'est toujours bien parce que c'est des informations de première main. Quoi, c'est...
Dans le prochain numéro du rebrousse-poil, donc.
Je vous rappelle aussi qu'il va y avoir en Suisse des manifestations pour la paix le 5 novembre à Berne. C'est une grande manifestation nationale. Donc, ça sera samedi dans deux semaines. Et que aussi samedi prochain, le 29 octobre, il y aura une manifestation à Genève, à départ à 15h30, rue du Mont-Blanc, devant le McDonald's. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101.4.
Thank you.
Au cours de cette émission, vous avez pu écouter les musiques suivantes. Hélène Martin qui chantait « Mes sœurs d'espérance », Yvette Terola, « Plus de pouvoir », le groupe allemand Tonstein et Scherben dans le disque « Keine Macht für niemand », une chanson de Brecht, et ensuite Boris Vian qui chantait « La Java des bombes atomiques », « 7 ans de malheur », « Le petit commerce », »,« Le déserteur » et finalement Edith Nylon dans « Les rebelles ». Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101.4 MHz.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail.